Bon, écoutez, nous allons commencer. Je crois que d'une part, tous nos invités sont là. D'autre part, la salle est pratiquement pleine. Il n'y a vraiment aucune raison qu'on attende. Et en plus, c'est l'heure. Donc, ça fait trois bonnes raisons de se lancer. Alors, nos invités aujourd'hui sur ce thème donc, de la nature, du surnaturel, de la magie, de la nature, sont, je pars du plus éloigné, donc Jean-Luc Marcastel. Je ne vais pas faire de longues présentations. Vous êtes tous, je crois, de vieux routards de l'écriture. Vous avez tous beaucoup publié. Vous avez tous un public qui vous connaît bien. Donc, on va aller assez vite dans les présentations. Jean-Luc, vous êtes là plus spécifiquement pour les deux tomes de Féerie.
Oui, tout à fait.
Et puis, j'ai quand même voulu porter, même si on était hors du sujet, c'était dommage de ne pas porter ce néo d'Artagnan, parce qu'on est tous tellement attachés à ce sujet que lui voir une nouvelle vie, ça ne pouvait que nous faire plaisir. Donc, on en touchera quand même un mot. Hélène Montardre, pour tout, bien sûr, on est sur des sujets précis, donc c'est Océania qui va... Ce ne sont pas forcément, vous le comprenez bien, les derniers livres sortis. Ce sont les livres qui se rattachent au thème. Océania est une tétralogie qui, évidemment, elle a commencé en 2009, c'est ça, si je ne me trompe pas
Oui, je pense.
Je crois que c'est 2009.
Je ne retiens pas les dates, en fait.
Non, moi un peu, mais pas forcément facilement. Mais évidemment, elle est dans notre sujet, et plus que dans notre sujet, d'ailleurs, dans nos préoccupations. Et Timothée qui revient à nouveau pour... peut-être on va revenir un peu plus sur l'aspect de la nature. Donc j'ai porté évidemment le livre de Perles parce qu'il touche tout à la fois, je crois, tous les aspects à la fois. Évidemment, on ne pourra pas éviter une fois encore Toby Lolness, puisque vous allez vous retrouver dans une problématique très proche. Et je vais justement commencer par vous deux et vous allez prendre ça dans l'ordre que vous voulez. Il y a des micros pour tout le monde, donc nul besoin de se l'arracher ni de se le passer. Voilà, cette idée de la miniaturisation, quelle qu'elle soit, c'est quand même une idée très ancienne dans nos littératures. Est-ce que c'est à un moment ou à un autre, pour un écrivain, une tentation, un passage nécessaire ?
En ce qui me concerne, c'est parce que le fait que j'ai voulu miniaturiser des humains pour les faire vivre au milieu des insectes, c'est tout simplement déjà quand, depuis que je suis enfant, je suis fasciné par les insectes. Quand on parlait, moi, quand je voyais des films avec des monstres extraterrestres comme des aliens ou tout ça, je dis pourquoi aller chercher si loin ? Les aliens, ils sont à nos pieds, il y a un monde extraordinaire, une jungle fantastique à nos pieds, un monde à redécouvrir, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de projeter des humains au milieu de ça, ce qui permet aussi, entre autres, après, dans un petit monde microscopique, de poser des grands problèmes oui. De société. Mais ça viendra peut-être un peu plus tard.
Non, allez-y, vous pouvez commencer.
Moi, l'intérêt étant de reproduire dans une micro-société et de pouvoir parler plus librement des problèmes de notre monde actuel sans nommer précisément les uns les autres où on pourrait dire ah, vous voulez parler d'un tel ou d'un tel. Non. On veut parler du fond, on veut parler de l'âme humaine. Moi, il est question, par exemple, de deux gens qui ont été miniaturisés par erreur il y a 20 ans. Ils sont devenus tout petits, ils ne font que 2 mm de haut, la taille d'une fourmi, et par contre, ils ne vivent très peu de temps, finalement 2 ans. Pour eux, c'est quelque chose de naturel, ils ont une appréciation du temps qui est différente de la nôtre. Donc des générations se sont succédées en 20 ans, ils ont créé une société. Par contre, cette société a été en quelque sorte noyautée par des prêtres qui ont mis en place une espèce de culte de la repentance où ils disent, voilà, avant nous étions des géants, nous marchions la tête dans les cieux, mais nous avons péché, et donc maintenant c'est notre purgatoire. Il faut donc accepter... un petit peu les règles et les lois, et dans cette société-là, par exemple, les femmes, un peu sur le modèle des insectes, sont réduites au rôle de reproductrices enfermées au centre de la cité. Et donc, on va avoir de nos jours quelqu'un qui va être miniaturisé à son tour, qui va découvrir ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils sont là, et qui va tomber amoureux d'une jeune femme de ce peuple, que son père cache, fait passer pour un garçon pour lui éviter le lot commun, et donc ils vont devoir s'enfuir, ils vont devoir... et tout ceci dans un monde extraordinaire. C'est vrai que les lois de la physique s'appliquant... Enfin, elle ne s'applique pas différemment, mais on est tellement plus petit que c'est fascinant de voir qu'on peut se noyer dans une simple goutte d'eau ou glisser justement à la surface d'un ruisseau.
Mais notre Méditerranée peut être une goutte d'eau pour certains.
Peut-être, ça met aussi après ça en abîme notre propre monde.
Oui, l'autre sens, bien sûr. Non, c'est très étonnant parce qu'on rejoint ce dont on parlait ce matin à propos des sorcières de Salem, entre autres sur ce niveau de culpabilité que vous venez d'évoquer et qui est là toujours pour expliquer l'inexplicable.
Oui, bien sûr.
C'est tellement commode et on le retrouve. Moi, ça m'a fasciné de le retrouver là aussi. Comme quoi, c'est vraiment une espèce de structure qui revient en permanence et qui permet quand même une prise de pouvoir.
une prise de pouvoir pour certains, et en plus pour les gens c'est rassurant de se dire que quelque part, c'est ce qui est terrible, de se dire que les gens, ça les rassure de se dire qu'ils peuvent être jugés. Ils préfèrent se dire qu'ils vont être jugés et qu'on les regarde plutôt que de se dire que personne oui. ne les regarde. En fait, c'est un peu ça, je crois. La terreur la plus terrible, c'est de se dire que personne n'est là pour nous regarder ou s'occuper de nous, que finalement, la vie n'a pas de sens.
Et qu'on n'a aucune raison d'être,
à part
oui.
celle qu'on veut bien lui donner.
Oui. Et pour Toby Lulness
Je suis aussi la source et l'enfance, et la fascination du minuscule, la conscience que d'une sorte de fraternité avec ces insectes aussi, avec tout ça. Enfin, même si ce sont effectivement des aliens, ce sont aussi, là j'ai lu très récemment un livre de Hubert Reeves extraordinaire où il parle du fait qu'on est des poussières d'étoiles, c'est-à-dire qu'on a vraiment on a les mêmes molécules, et c'est encore plus vrai des insectes qui sont presque une étape de notre... Il y a ça, mais il y a surtout l'intuition depuis toujours que réduire c'est grandir. Enfin, c'est que en réduisant, on met une loupe sur tout, sur les sentiments, les passions, sur les dangers. Et ça, c'est très, très étrange. On a l'impression, normalement, que justement, on va avoir des sortes de petites miniatures à la façon de François Place quand il illustre Toby, c'est-à-dire ces sortes de fresques, ou quand il dessine les derniers géants. D'ailleurs, autre monde parallèle. Là, il y a l'idée qu'en faisant des petits personnages d'un millimètre et demi à deux millimètres pour les plus costauds, on se retrouve avec la fragilité passionnante et l'aventure apparaît dans chaque instant à partir du moment où on réduit ce monde. Donc, j'ai pas hésité une seconde quand c'était un premier roman, donc c'est vrai que Toby Lulness, il y a toutes les tentations du premier roman, tous les vices du premier roman, mais il faut en faire des forces aussi.
C'est plutôt réussi.
J'espère, mais je crois en tout cas que je suis parti de toutes ces erreurs qu'on fait en voulant tout mettre dans un premier roman. Et pour tout mettre, il faut réduire pour que tout tienne. Et ça a été le cas quand j'ai créé cet arbre, qui est un arbre aussi pour que ce soit un arbre de la nature, un arbre vraiment à l'image de ceux qu'on voit même d'ailleurs juste là au bord. J'en ai vu au bord de la mer. Je ne sais pas comment ils tiennent. Il fallait réduire pour que ça tienne, pour que le monde tienne dans mon arbre.
Et là, par contre, on va passer tout à fait autre chose avec Hélène, parce que là, on est dans les déchaînements de la grande nature.
Oui, alors les déchaînements, c'est peut-être pas forcément le mot. On est dans la nature, dans ce qu'elle
oui.
est. C'est-à-dire, on a peut-être oublié que la nature, elle est là, et que l'homme ne peut pas tout contrôler, tout domestiquer, et qu'il y a des moments où elle reprend le pas. Et dans ces moments-là, eh bien, comment l'homme, ou en l'occurrence la femme, puisque mon héroïne
oui.
est une fille, comment l'individu va réagir, va s'adapter, va prendre des décisions, parce qu'on ne peut plus se laisser bercer dans une société qui existe, dans un monde avec ses règles, tout est déréglé, et chacun doit prendre des décisions, prendre sa vie en main. Et on n'a pas été forcément formé pour faire ça. Pour devenir l'acteur de sa propre vie.
Et là, la nature contraint justement votre héroïne, mais même pratiquement, il faut découvrir, elle part en quête, ça va au-delà de juste faire face, elle a une démarche qui est celle de la quête.
Oui, mais alors au début, elle ne le sait pas, parce que c'est vrai qu'au début, et moi j'aimais bien ce personnage, au début, elle vit dans une société où tout est organisé, elle habite avec son grand-père, dans une société finalement qui est la nôtre, ni plus ni moins. Et puis, elle se retrouve dans un environnement au bord de la mer où l'océan monte et on ne peut plus habiter là. Les personnes qui habitent au bord de la mer sont évacuées. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était de l'anticipation, mais ça n'en est plus,
oui.
puisque les personnes déplacées pour cause de montée des eaux, c'est devenu une réalité et ça va l'être dans notre pays aussi. Et donc, Flavia, mon héroïne... va donc être envoyée par son grand-père dans un pays où on a su se protéger de la montée des eaux, ce pays, c'est l'Amérique. Et elle se retrouve à New York. À New York, ils ont construit une digue. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se protéger. Mais bien sûr, ils ne veulent pas des gens qui arrivent d'ailleurs. Ils sont assez nombreux derrière cette digue. Et voilà, cette adolescente qui, jusque-là, avait vécu une vie tout à fait organisée, où finalement, elle n'avait pas tellement de décisions à prendre, va devoir se prendre en main et faire des choix. Et faire des choix face à cette nature, face à tous les problèmes que cela engendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre que l'océan monte, il y a des populations qui sont en péril, il y a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes de déplacement de population, il y a des problèmes de quête de nourriture. Que devient-on et quel choix fait-on?
Et vous l'envoyez à travers le monde?
Oui, parce que c'est une question planétaire.
Et oui, voilà. Et à des endroits sensibles, on voit le froid, par exemple, tous les problèmes de la glace.
Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'océan qui monte, il y a le Gulf Stream qui ralentit. Si le Gulf Stream ralentit, l'Europe connaît un climat très différent. Et puis il y a tout le Pacifique. Le Pacifique, c'est énorme, c'est les deux tiers de la planète. Oui. Et puis il y a le détroit de Bering où les glaces sont en train de fondre. Et ça veut dire que le détroit de Bering va devenir un passage maritime que l'on peut utiliser par les pétroliers notamment. Donc il y a d'énormes enjeux économiques, il y a toutes les ressources pétrolières qui se trouvent là-dessous. Et en fait, moi, Océania, c'est un roman d'anticipation, mais j'ai rien inventé. Tout ce dont je parle pourrait arriver dans la réalité.
Oui, qui est de moins en moins d'anticipation, malheureusement.
Voilà. Par exemple, je parle des centrales atomiques flottantes que les Russes ont lancées sur l'océan Arctique. C'est un sujet dont personne n'a entendu parler, mais si vous cherchez, ça existe déjà. Il y a déjà des centrales atomiques qui flottent sur l'océan Arctique, qui est censé être un environnement privilégié.
Et là on dit que nous allons parler de magie surnaturelle. Et au bout du compte, la nature remplace les dieux, puisque vous êtes très, très proche et très féru de mythologie grecque.
Oui, mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans la mythologie grecque. C'est que les Grecs avaient construit tout un panthéon autour de dieux, de déesses et de héros. Mais finalement, le centre de la mythologie grecque, c'est l'être humain qui est toujours au centre de tout. Et c'est ça qui est passionnant dans la mythologie grecque. Et c'est pour ça que ça nous parle encore autant aujourd'hui. Parce que la quête des Grecs, c'est la quête de l'homme. De qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Et comment fait-on pour vivre sur cette planète? Et c'est vrai qu'on a toujours ces questions-là dans la tête.
Oui, de plus en plus, de plus en plus. Là, je vais aller tout à fait sur un autre aspect des choses. Jean-Luc, quelque chose m'a frappé, entre autres dans les commentaires, dans les interviews que j'ai entendues, où vous parlez quand on construit, parce que là, ça doit être la nature, c'est une reconstruction complète par rapport à l'homme, par rapport à... c'est le travail sur le vocabulaire. À un moment, vous avez parlé de la nécessité de tout renommer.
Oui, parce que dans Prairie, en fait, mon principe, c'est que dans cette société, en fait, donc ce sont des gens au départ qui habitent dans le sud de la France, qui ont été miniaturisés. Et donc, dans ce monde dans lequel ils vivent, donc déjà, ils vivent, je disais, que 2 ans, donc ils ont une appréciation du temps qui est différente, mais aussi, c'est un monde où l'information est essentielle, elle doit être rapide et extrêmement concise. Ce qui fait qu'en fait, ils vont prendre, c'est la langue française, mais elle va être rapetissée. Les mots sont écourtés, sont combinés les uns aux autres. On prend des bribes de mots qu'on assemble pour aller plus vite, pour parler plus vite, pour donner l'information plus vite. Ça peut être justement la quelques millisecondes essentielles entre le moment où un prédateur va vous tomber dessus et vous allez, voilà. Par exemple, je prends un exemple, au moment dans le livre, quand j'ai fait des annexes, en mettant comme ça cet vocabulaire, où on dit, voilà, un matin glacé et brumeux, eux, ils vont dire glace brumate. Voilà, ça veut dire un matin glacé et brumeux. Voilà. Et donc, toutes leurs phrases comme ça, en plus, ils s'amusent beaucoup à faire des mots à tiroir. Et donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le développer dans le livre, mais j'en parle dans les annexes et je dis qu'il y a certaines périodes plus calmes, parce qu'en fait, ils ne vivent que 2 ans, ce qui veut dire dans leur cycle de vie, ils connaissent 4 saisons, donc le printemps, enfin l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, 2 fois. Elles reviennent 2 fois dans leur vie. Et donc, la période où il fait froid, où il fait sombre, ils ne sortent pas trop parce qu'ils sont très sensibles au froid, bien entendu.
Oui.
Donc, en fait, ils restent à l'intérieur, c'est des périodes plus calmes, et puis en plus, les prédateurs, les insectes qui sont leurs principaux prédateurs, sont endormis. Et donc là, ils peuvent se laisser aller à parler de manière plus détendue. Donc là, ils s'amusent à broder, à développer des mots, justement, à faire véritablement une poésie. Donc dans leur univers et dans leur société à eux, c'est très important. Voilà. Ou alors dans l'intimité, quand ils se retrouvent des fois dans l'intimité. Voilà, donc ça, c'était assez amusant à faire. Et donc, il a fallu que je réinvente, et puis évidemment, le nom de tous les insectes qu'ils voient. Par exemple, pour eux, l'araignée, c'est ventre-croche, parce que c'est une espèce de ventre énorme avec des crochets. Les guêpes, etc., ils appellent ça des vols morts, parce qu'elles volent et elles apportent la mort, etc. Et donc, ils sont classés un peu en fonction de ce qu'ils représentent, soit comme danger, soit comme avantage pour eux.
Création du monde, d'ailleurs, on y reviendra, mais qu'on va retrouver aussi dans les machines volantes ou autres de... Voilà,
du simulacre, tout à fait. J'aime bien jouer avec la langue française.
Mais c'est normal. Là, on rejoint ce que disait Hélène, c'est que vous disiez, bon, c'est de l'anticipation, c'est du moins une création autre de notre monde avec des mots différents, mais ces mots raccourcis, c'est plus tout à fait de l'anticipation.
Non, tout à fait. C'est ce qui est fascinant, de voir justement la capacité en fait des gens, des jeunes ou des communautés à chaque fois à se développer leur propre langage.
Oui.
Moi, quand j'étais enfant, il y avait des abréviations, on avait nos mots à nous qui n'étaient pas ceux des adultes. Et maintenant, je vois mon fils, etc. Je le vois à travers mon fils, où des fois, il emploie des mots, il dit, qu'est-ce que tu as dit là ? Et en fait, ils ont leur langage à eux qui n'est plus le nôtre, leur propre code. Chaque société développe ses codes. Même nous, je vois entre auteurs, surtout auteurs de fantastique et d'imaginaire, on a un petit peu nos codes ou des choses qu'on connaît. On parle de choses, si les gens à côté de nous nous écoutaient, ils comprendraient des fois pas la moitié de la conversation. On a l'impression d'être un peu obscur.
Là, vous parlez d'un langage codé, mais je pensais au langage juste, au mot raccourci. Chez des adultes aussi, je vois autour de moi très couramment, comme si un mot de 4 syllabes devenait un truc tellement compliqué et tellement fatigant à dire qu'il faut absolument enlever la moitié.
On le voit avec les téléphones, les gens n'ont plus le temps, il faut que ça aille vite. De toute façon, ça c'est la même chose, la préoccupation reste la même.
Oui, alors là on perd quand même de la magie des mots, parce qu'on est dans la magie, le mot entier et le mot avec son histoire, avec sa sonorité, véhicule une vraie magie, que ces espèces de petites choses un peu courtes et saccadées vont...
Il y en a qui arrivent à jouer avec. Je sais que maintenant, j'ai vu passer comme ça des livres de poèmes en SMS.
Pourquoi pas ? Un vrai poète doit pouvoir faire aussi.
Pourquoi pas ?
Dans la civilisation de l'arbre de Toby Lawless, j'avais beaucoup joué aussi sur les mots d'une autre manière, pas avec ces raccourcis que je trouve vraiment, enfin c'est vraiment intéressant, parce que ça dit à la fois l'urgence, la fragilité, et qui pousserait à faire des tweets de 14 signes plutôt que 140 ou 130, je ne sais plus. Mais là, dans Toby Lawless, j'avais joué avec l'histoire en particulier des expressions figées, du genre quand on appelle quelqu'un vieille branche, c'est quelqu'un qui a grandi sur la même branche que nous toute sa vie. Et donc, ça, voilà où j'avais. Et puis, il y avait des mots, c'est très drôle, je me souviens d'un coup de fil angoissé de François Place qui avait fait les illustrations et qui m'appelait pour me dire, quand tu dis un moucheur de larves, en quoi ça consiste ? Parce qu'il était en train de dessiner. Et je lui avais dit, je t'entends mal.
Oui, on passe dans un tunnel, c'est ça.
Je voulais qu'il se débrouille. Et il y a un très beau dessin qu'il a fait, et j'ai découvert ce qu'était l'activité de moucheur de larves. Là, c'était l'activité d'un des personnages. Alors, il y a là, une sorte de boîte à larves dans laquelle on met les larves, et ensuite, il a inventé ça. Et ça, je trouve ça très extraordinaire de donner simplement des pistes. Et je suis sûr que, enfin, jusqu'au dessin de François, chacun pouvait inventer le métier qui va avec le mot, suivant ce qu'il a dans la tête. Et ça, il n'y a que la littérature pour faire ça, je crois.
Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est un peu en aparté, mais moi, je m'étais étonnée pour un de mes premiers livres que de n'avoir aucun contact, mais d'être même muré. Il y avait un mur entre l'illustrateur et moi. Et après, j'ai compris, effectivement. Pas d'interférence, il illustrait ce qu'il voulait et ce qu'il voyait. Et ce n'était pas là derrière à dire « Oui, mais moi, j'ai dit qu'il était habillé en bleu. » Ce qui est quand même extrêmement contraignant. Et
je me retrouvais dans le deuxième tome de Toby à dire, il avançait avec son costume à rayures. Je me disais, pourquoi je dis qu'il a des rayures ? Je regarde les illustrations de François du premier et il avait mis des rayures. Alors ça y est, j'étais contaminé et je me retrouvais et il prenait les commandes.
Donc vous voyez, là, on n'est pas dans la magie de la nature, on est dans l'alchimie du livre illustré. Mais je crois que ce n'est pas inintéressant non plus. Mais Hélène, je voudrais revenir sur cette mythologie grecque là, qui quand même... je ne peux pas dire que ça me tracasse, au contraire, ça me passionne beaucoup parce que, peut-être moins que vous, mais je suis passée par cette voie-là, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'est vrai qu'on l'a laissé un petit peu de côté, je trouvais, depuis quelques temps. On était parti vers d'autres, comme si on en avait fait le tour. Et je trouve que tout ce que vous avez publié, même si on est un peu en dehors de la nature, toute mythologie explique quand même la nature, explique aussi la forme du monde et la relation qu'on a au monde. Et vous renouvelez le récit.
Oui, enfin, je renouvelle en m'appuyant quand même sur des textes ou sur des récits qui sont racontés depuis plus de 3000 ans. Et bah, c'est ça qui est magique, c'est que en fait, ces récits, si on les raconte encore aujourd'hui et si on a encore envie de les raconter, c'est justement parce qu'ils posent les questions essentielles. Et les grandes questions sont celles que les Grecs se posaient, celles que nous nous posons. Pourquoi sommes-nous là? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la violence? Oui. Qu'est-ce que c'est vivre ensemble? Et comment on fait pour vivre ensemble? Et c'est ça qui est passionnant dans les récits de la mythologie. C'est qu'on les racontait il y a 3000 ans, on les raconte aujourd'hui, c'est les mêmes histoires. On ne les raconte pas tout à fait de la même façon, mais on parle de la même chose. Et on apporte le peu qu'on a appris en 3000 ans, c'est pas tant que ça finalement. Et on essaye d'aller un petit peu plus loin, les emmener un petit peu plus loin.
Oui, et donc j'y pensais pour des choses moins amples que celle-ci. Et c'était entre autres, bon, on a parlé d'insectes, c'est pas tout à fait des insectes, mais on se rapproche de cet univers-là, les araignées. Les araignées, parce que ce matin, hier avec Nina Allan, il était question des araignées. Là, vous venez de parler du ventre, voilà. Et vous avez du ventre croche, et vous avez tous les deux souligné, enfin, Jean-Luc surtout, la fascination, mais même la terreur. Enfin, vous vous trouvez face à une mante religieuse agrandie 15 fois. Fuyez de toutes vos pattes, parce qu'il n'y aura pas de quartier. Hein, elle ne regardera même pas si vous êtes son mâle ou pas. Donc, voilà, ça aussi, ça m'étonne toujours. Cette explication de l'araignée. Et Nina Allan ce matin et hier était revenue sur vraiment le récit de base, c'est-à-dire que la jeune femme était transformée par une personne qu'elle n'avait peut-être pas identifiée tout de suite, mais qui petit à petit devenait grande, avait les yeux verts, une grande autorité, changeait de visage. Et on trouvait évidemment dans un récit qui avait l'air quotidien et on retrouvait cette magie à la fois du récit mythologique, de la création d'un être naturel entre magie, supernature et nature.
Mais là, on parle beaucoup en fait des architectures invisibles sur lesquelles on se recale, celle de la mythologie, celle de la science, celle de... et alors que peut-être la vraie origine de tout ça... C'est simplement la sieste d'un enfant dans l'herbe et le bourdonnement des guêpes et la petite sauterelle qui vient se balader au coin de l'œil et qu'on ne veut surtout pas déranger. Et ça, c'est vraiment... ça doit être toujours là, vibrant, présent, même si y a un grand plaisir, presque une coquetterie, à se remettre dans la grande histoire de la littérature, dans la grande histoire de ces schémas qu'on retrouve. Et il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de... Aussi, j'ai commencé en parlant un peu de fraternité, là aussi une sorte de fraternité humaine de Homère à moi, petite pomme de terre, comme dirait Chen, l'illustrateur Chen, qui parle toujours de lui en disant « moi, petite pomme de terre ». C'est vraiment nous comme ça et se retrouver dans et reconnaître, avoir le plaisir de se dire qu'il y a quelque chose, une sorte d'universalité de ces dans Toby 2. Je me suis beaucoup inspiré par exemple des fractales. Je me suis amusé à, alors c'est là complètement, je ne parle pas des fractales, je truc, mais c'est là derrière tout il y a dans les recherches de Sim Lolness, le père de Toby. Mais finalement l'essentiel c'était quand même du ressenti par rapport à la nature. Voilà. Et donc, c'est là-dedans qu'est le surnaturel. Finalement.
La magie première. Oui. La magie première, que la nature soit là et qu'elle ait cette forme-là.
Voilà, exactement. Ouais. Et l'émerveillement.
Ce qui suppose aussi pour beaucoup réapprendre à regarder.
Oui, et se défaire aussi de temps en temps, de lâcher le savoir pour simplement ressentir.
Donc on laisse tomber les fractales.
Allez, on laisse tomber les fractales.
Très bien.
Peut-être
même
pas.
Si j'avais un grand bonheur à aller à la Bibliothèque nationale, demander 5 volumes sur les fractales, les empiler.
Ah, c'est vrai que...
Et puis écrire à côté mes petites histoires.
Hélène, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je veux dire ne pas chercher forcément à tout vouloir expliquer. Et tout
ouais. Oui.
Alors comprendre c'est une chose, mais tout vouloir expliquer. Par exemple, je vois dans Océania, le premier volume s'appelle La prophétie des oiseaux. C'est pas par hasard, c'est parce que quand on observe les oiseaux, Bon, moi, quand j'ai commencé à écrire Océania, j'y connaissais rien aux oiseaux. J'aime bien les oiseaux, voilà, c'est joli, ça chante, c'est élégant. J'ai commencé à m'y intéresser, je ne sais pas trop comment c'est venu dans mon affaire, mais ça a pris beaucoup de place. Et quand on y réfléchit, c'est absolument extraordinaire. Même encore aujourd'hui, malgré toutes les observations qu'on a faites, les études scientifiques qu'on a faites, etc., on ne sait pas pourquoi les oiseaux migrateurs migrent, comment ils savent où ils doivent aller, à quel moment ils doivent partir, oui. Comment ils vont. Et dans Océania, le personnage de Flavia, c'est un guetteur. C'est sa profession, il est guetteur. Et il observe les oiseaux migrateurs parce qu'on s'est aperçu qu'en observant les mouvements des oiseaux, on pouvait prévoir ce qui allait se passer sur le plan climatique, parce que les oiseaux anticipent. Et moi, j'ai inventé mon personnage de guetteur comme ça. Puis après, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je vérifie quelques données scientifiques. Donc j'ai fait appel à un ornithologue. Et il m'a dit, ben, je vais donner à lire ce que j'avais écrit, il m'a dit, ben, nous sommes des guetteurs, nous les ornithologues, c'est ce qu'on fait. On observe les oiseaux parce qu'on sait qu'ils anticipent ce que nous, on ne sait pas encore, on ne voit pas encore, et ils anticipent le changement. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Moi, j'étais allée vers là un petit peu instinctivement, et lui, finalement, ne m'en a pas dit beaucoup plus, parce qu'on ne l'explique pas. On ne sait pas comment ils y arrivent, comment ils font ça. Et ça m'a passionnée.
Oui, c'est le niveau où la poésie et la science se rejoignent dans un, oui. À célébrer le même mystère. Non, mais à célébrer le même mystère, puisque chaque mystère élucidé ne fait qu'en révéler un autre.
Exactement.
Qu'en annoncer un autre. Là, je vais un petit peu changer de sujet, parce qu'on a beau dire qu'il ne faut pas toujours... J'ai entendu tout à l'heure qu'on ne devait pas forcément s'appuyer sur ce qu'il y avait avant, mais malgré tout, on a des admirations et on a des fidélités. Et là, je voyais tout ce que Jean-Luc avait dans son panthéon, peut-être plus vivant même que dans le panthéon. D'ailleurs, les écrivains là, vous allez y passer tous les trois, hein, vos écrivains, donc préparez-vous tout de suite. Je commence par Jean-Luc, mais j'aime beaucoup les filiations, on ne va pas dire les inspirations, j'aime beaucoup les filiations, j'aime bien aussi qu'on célèbre les mémoires. Et quelquefois, ça ouvre aussi d'autres portes. Donc voilà, je vais me permettre de vous demander à tous les trois, non pas de faire votre top 50 ou votre, mais juste quelques auteurs qui, sans qui vous vivriez bien sûr, mais peut-être un tout petit peu moins bien. Ils peuvent être tous morts. Hein.
C'est Jean-Luc Marcastel et Hélène Montarne.
Non mais je suis désolée, ce matin on était sur les zombies et je crois que ça m'a perturbé.
Non, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous pose cette question, moi, souvent quand j'interviens, je fais des interventions dans des classes, on nous demande c'est quoi les auteurs que vous préférez. Et puis alors, à chaque fois, je suis là.
Alors, je peux vous aider? Non, parce que j'ai bien sûr cherché quand même des...
D'autres réponses fausses que tu as pu faire.
Des tas de réponses possibles. J'ai eu tout le temps de me perdre et de me retrouver dans les pages de Dumas, Hugo, Seignolle, Lovecraft, Tolkien. J'arrête ou...
Il y a tout cela et quelques autres.
Henneberg, oui, Céline, Leigh Brackett, oui. Évidemment. Oui. Caroline Chéry.
Oui, c'est J. Chéry aussi, oui. Qui a écrit une trilogie qui s'appelait magnifique, qui s'appelait Soleil mort. Enfin oui, tous ces auteurs, des classiques, des moins classiques, récents, anciens. Des auteurs qui m'ont marqué, moi, quand on est gosse, on découvre, quand je parle de Dumas, parce que j'ai découvert Dumas, Trois Mousquetaires, quand j'étais gosse, justement, et cette façon, justement, c'était des feuilletonistes, quoi. Vraiment, ce bonheur d'avoir un rebondissement comme ça par page. Puis cette histoire qui est quand même extraordinaire, moi je trouvais entre autres des Trois Mousquetaires, qui reste encore de nos jours d'actualité. On n'arrête pas de la remettre au goût du jour.
Oui.
Je vois, il y a encore un feuilleton qui sort justement, qui s'appelle Mousquetaires, qui a fait la BBC.
Oui, oui.
Pourquoi ? Parce que cette histoire, on parlait d'histoire éternelle, cette histoire d'amitié qui dépasse tout, qui ça parle à tout le monde. C'est quasiment un des seuls, je crois, livres de France. Si vous demandez à un Chinois, un Français, s'il connaît un Français célèbre, il y a une chance sur deux qui vous saute d'Artagnan.
Oui, oui.
C'est à
oui.
peu près le seul Français qui
avec vous Victor
connaît.
Hugo, ça passe à peu près toutes les frontières.
Pourquoi ? Parce que vous voyez, elle a cette fraternité qui dépasse toutes les frontières, justement, oui. Qui parle à tout le monde.
Oui. Tous
pour un, voilà. Il y a quelques idées comme ça qui sont vraiment, qui dépassent les cadres des frontières et qui parlent à tous les hommes, quelle que soit leur culture, parce qu'on dit souvent qu'il y a une fracture entre l'Orient et l'Occident. Je crois qu'il y a quand même des valeurs universelles
heureusement,
à tous les hommes.
C'est encore bien heureux. Et pour revenir à notre nature sur nature, magie de la nature, vous avez quand même là dans votre livre, vous avez Seignolle et Tolkien,
oui.
Qui ont quand même un discours, un rapport et un ressenti. Je pense Seignolle, c'est très évident. Et Tolkien, c'est peut-être encore plus profond, parce que Tolkien, il y a comme une blessure qui n'est pas pensé chez lui par rapport à la...
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché chez Tolkien, c'est le poème qu'il a fait sur le... Vous savez, le poème des Ents.
Oui.
Où en fait, les Ents ont perdu les femmes Ents.
Oui,
il est très, très beau, où il explique que voilà, les hommes Ents, eux, c'est la nature, etc., sauvage, mais et que les femmes préfèrent les vergers, etc. Et donc, ils ne les voient plus, ils ne savent plus où elles sont. Ils ont perdu les femmes Ents parce qu'elles, elles préféraient voilà, les vergers, les pommes, la nature cultivée, alors qu'eux préféraient la nature sauvage. Il y a toute une... c'est assez magnifique, ce rapport qu'il a avec la nature, ce rapport...
Et qui est quand même son angoisse, une de ses grandes angoisses.
Alors c'est ce qu'a mis, visiblement, c'est ce qu'a voulu mettre en avant, je crois, Peter Jackson. Il a pris cette interprétation-là dans les films, en mettant le fait que l'anneau soit en fait l'industrialisation.
Oui.
Il a pris cette interprétation comme point de départ, je crois, pour faire les films.
Mais je crois que c'est une vieille interprétation dont Tolkien était forcément imprégné. C'est quand même une interprétation de la fin du 19e siècle anglais qui aboutit à la création du National Trust et qui rejoint la surnature. C'est-à-dire que l'industrialisation bouffe tout. Il y a des usines, il y a des chemins de fer, il y a des grandes routes. Où va la nature? Et si la nature s'en va, si on n'a plus de nature propre, de nature préservée, où vont les esprits qui habitent la nature? Et ce n'est pas du tout une réflexion fantaisiste de quelques esprits flottants. Non, non, on sent que dans la fin du 19e siècle...
Oui, une certaine détresse.
Il y a une certaine détresse et c'est une question pour des grands écrivains, pour des grands peintres. Ça va commencer avec les frères Raphaélites et ça va terminer avec le siècle. Et Tolkien est quand même l'héritier un petit peu de ce sentiment-là.
Oui, puis cette passion justement pour tous les récits moyenâgeux, ce désir de retour au Moyen-Âge qu'on retrouve d'ailleurs dans l'architecture très souvent de nouveau, de néo-gothique, etc., qui s'est fait après. Voilà, cette idée aussi que la nature, ce qui est fausse d'ailleurs, parce que les gens ont tendance à dire, au Moyen-Âge par exemple, il y avait les forêts, etc. Si on regarde au XIIe siècle, il n'y a jamais eu aussi peu de forêts en France parce qu'on se servait du bois comme matériau de construction pour se chauffer ou pour les outils. Donc en fait, entre le 9e et le 12e siècle, les forêts en France avaient quasiment disparu.
La différence avec aujourd'hui, c'est que comme on savait qu'on aurait besoin de bois, on replantait. Aujourd'hui, c'est moins net.
On replantait pas tant que ça, non. Il y a eu des grands, grandes campagnes de replantation, on peut dire.
Mais oui, non,
mais beaucoup plus tardivement.
Plus tardivement, mais il s'était rendu compte quand même. Oui, au XIVe siècle, par exemple, on a des documents où on accuse les, non pas les seigneurs, mais leurs intendants ou du moins leurs sénéchaux ou autres, d'avoir tout raclé. Ils avaient tout vendu, tout ce qui pouvait se tenir sur racines, quoi, à peu près. Mais il y a eu ces replantations. Aujourd'hui, je suis moins sûre que toutes les haies qu'on abat soient replantées. Voilà.
Il y a plus de forêts, je pense, qu'il y en avait au début du XXe siècle.
Oui, mais vous savez, c'est la forêt de consommation rapide. C'est de la forêt poireau, quoi.
Forêt poireau, après les ventres croches, la forêt poireau.
Non, ça fait partie.
Dans les références, voici un auteur que je cite jamais dans les auteurs qui nous ont nourris. Et c'est à la fois une conversation que j'ai eue il y a moins d'une heure et le fait de planter des arbres qui m'y fait penser, c'est Giono.
Alors
dans ce mariage de la nature, de la surnature, et c'était quoi le premier terme de notre débat? Je ne sais plus, mais c'est
magie.
Et la magie.
Magie.
C'est vraiment un auteur, moi, qui dans la pâte, avec un accent circonflexe de son écriture, et m'a énormément marqué. J'ai énormément lu Giono et été très très touché par l'écriture de Giono, en particulier, alors que pourtant on pourrait penser que c'est ses romans à la Angelo ou le cycle du Sar sur le toit, et en fait c'est plutôt ses premiers romans, Colline, Regain, Inde Beaumugne, qui m'ont le plus marqué. Au point que j'ai démarré quand j'étais en maîtrise, j'ai jamais fini, mais un mémoire sur la botanique chez Jean Giono. Et c'était vraiment un sujet qui me permettait simplement de me balader avec un carnet et des livres de Giono dans la garrigue, ce qui est quand même une bonne manière de faire.
Oui, mais avec une bonne raison de le faire.
Avec une très bonne raison.
Toutes les excuses, là, c'est vraiment parfait.
Et avec un directeur de recherche qui me disait, vous revenez un jour ou... J'ai pas fini, malheureusement, et j'ai perdu les quelques pages que j'avais écrites qui aujourd'hui se vendraient extrêmement cher. Ça m'énerve.
Ah oui, ça c'est quelle perte pour l'humanité.
Je ne sais pas le dire, mais je suis très content.
Non, mais je suis là pour ça.
Merci. Voilà.
Non, mais y a, quand on parlait de... Je me permets d'intervenir, je suis là pour vous faire parler, mais j'interviens parce que...
On est quatre à débattre.
C'est une vraie douleur, sinon. Vous parliez de Giono, et c'est vrai que la magie, la puissance de la magie de la nature dans le champ du monde est totalement là. Rien que la rivière, le flux de la rivière, et on part dans quelque chose qui est cette puissance incroyable,
billes
cette magie,
de bois sur ces billes fleuve, de bois.
Et on ne sait plus si on est dans le cosmos ou dans une rivière. Quoi, le jeu des étoiles, du flux, c'est vraiment là.
Et en même temps, c'est un western.
Et
c'est
aussi, mais ça, c'est aussi la force des très grands. Ils arrivent à allier le non mariable, du moins ce qu'on pouvait penser pour le. Mais Giono était quelqu'un qui, alors très curieusement, Giono, on se prend tout de suite à parler de Giono, hein, parce que quand même, c'est tellement beau par là-bas. Hein, chante. Mais en fait, c'est un homme qui un jour, moi j'ai découvert ça avec ravissement et délice, puisque moi mes passions vont un tout petit peu, bon j'ai une formation d'helléniste et je ne renie rien de ce monde-là, mais quand j'ai découvert le monde celtique, c'est vrai que toutes les légendes celtiques et arthuriennes m'ont beaucoup fascinée, et j'ai découvert que lui aussi disait que c'était son monde d'univers, son univers d'enfance, et il expliquait que quand son père est mort de façon tout à fait prématurée, le jeune Giono faisait ses études et ne se destinait pas du tout à devenir petit employé de banque comme son père, et son père meurt subitement et dit en mourant, la chute de mon père a écrasé ma forêt de brocéliande. Donc il y avait des arbres, il y avait bien des arbres, pas que de la garrigue et du... Et ailleurs il a écrit que lui son univers rêvé c'était pas du tout les collines, donc là, c'était l'Écosse. C'était
l'Écosse.
Voilà, il continue à rêver, à rêver d'Écosse.
Et la Grèce, si, comme oui. Son premier texte c'est Naissance de l'Odyssée, qui est une merveille.
Oui, oui. Mais là, je crois que justement, en unissant la Grèce et l'Écosse, on balait le champ du possible, des merveilles, avant de parler de culture, des merveilles de deux natures tout à fait opposées. Bon, Hélène, vous avez échappé pour l'instant.
Non, elle ne va pas y échapper.
Non.
Oui, mais ça m'a donné le temps de réfléchir. moi, il y a un livre qui m'a suivi, enfin qui me suit toujours, mais il ne m'a pas suivi, il continue à me suivre depuis l'âge de 7 ans, je pense. C'est un livre d'Henri Bosco qui s'appelle L'enfant et la rivière.
Merveille.
Alors c'est un livre terriblement ennuyeux, il ne se passe rien. La première fois que j'ai lu, j'avais entre 7 et 8 ans et j'ai trouvé ça franchement profondément ennuyeux. Et je tournais les pages et je le lisais. Et n'importe qui l'aurait mis de côté en se disant je vais plutôt prendre un club des 5, c'est beaucoup plus rigolo. Et en fait, je l'ai lu jusqu'au bout. Et à la fin, je me suis dit j'ai jamais rien lu d'aussi ennuyeux. Et en même temps, je me suis dit mais qu'est-ce que c'était bien. Et je l'ai aussitôt relu. Et je l'ai toujours relu et je le relis toujours. Et il y a une magie dans ce livre dans lequel il ne se passe rien qui est cette rivière. Et cette rivière qui emmène à un moment, enfin il y a un grand passage dans le livre où il y a ces deux enfants qui sont dans une barque et livrés à eux-mêmes et à la rivière, et ils sont sur cette rivière et ils vivent sur cette rivière et tout est possible. Et là l'imaginaire, la nature
fonctionne.
Et l'imaginaire, j'ai jamais rien lu où ce soit aussi lié. C'est assez extraordinaire.
Il y a comme une hypnose presque, on rentre dans ces... Il y a aussi des films aussi dont... On croit qu'on va s'ennuyer et on ne peut pas décrocher.
Voilà, on ne peut pas décrocher.
On ne peut pas décrocher
parce que ça parle.
Oui.
Voilà.
Ça parle, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas que ça parle parce que ça se passe loin.
Oui, oui, oui,
ça se passe loin derrière. Et vous avez raison, on y revient. Et quand vous parliez des deux enfants sur la rivière, on fait des ponts peut-être un peu. Mais vous vous rappelez La nuit du chasseur.
Ah oui.
Les enfants sur la rivière.
Tout à fait. Oui, 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 bien sûr.
Ce moment qui est quand même à la fois un peu un temps pour eux, de
répit. Oui, c'est un temps qui est complètement réaliste.
Qui est hors du temps.
Parce que tout est possible, c'est une rivière, c'est deux enfants, c'est une barque, tout est possible. Et c'est un temps qui est à côté. Et dans cet à côté-là, tout est possible.
Oui.
Et ça, c'est assez extraordinaire.
Et là, en plus, pour eux, la protection de la rivière. Parce que, en plus, ils ont des enfants pour chasser. Je ne sais pas si vous avez vu la nuit du chasseur. Qui l'a vu, la nuit du chasseur, ici? Eh bien, les autres, vous avez de la chance parce que vous allez découvrir un chef-d'œuvre. Voilà.
Et alors, un petit peu plus tard, quand j'étais en fin de collège, je pense, j'ai commencé à lire Steinbeck. Et là, ça a été aussi très, très important parce que Steinbeck, il y avait cet immense pays, l'Amérique, cette immense nature, mais il y avait aussi la société à l'intérieur. Et puis ces personnages qui ont une dimension complètement, je ne sais pas comment dire, mais enfin, on retrouve les grands personnages du théâtre grec. Oui. Ils ont cette dimension-là. Et là, ça alliait un côté que moi, finalement, je n'ai pas tellement lâché non plus. C'est-à-dire, on est dans l'imaginaire, on est dans des... Moi, je parle beaucoup de la nature, mes histoires se passent toujours dans la nature, quasiment. Et en même temps, on est ancré dans la société et on suit des personnages qui sont des individus et qui sont dans cette société-là. Et dans Steinbeck, il y a tout ça.
Oui.
Et alors, il y a un autre auteur dont je voudrais parler, c'est Panayotis-Strati.
Oui.
Panayotis-Strati, c'est un auteur d'origine grecque, mais qui a vécu en Roumanie et qui écrit en français. Et alors, il y a un livre extraordinaire, c'est Les Chardons du Baragan. Et Les Chardons du Baragan, ça se passe sur, dans un endroit qui n'existe plus, qui est en Roumanie. Il y avait d'immenses plateaux et les gens qui vivaient là étaient très pauvres. Et il y avait l'époque où les vents se levaient, les vents se levaient. Il y avait du vent, en gros. Et sur ces grands plateaux, le vent arrachait tout. Et le vent arrachait les chardons. Il y avait d'énormes chardons. Et les chardons roulaient sur le plateau. Et les enfants, les jeunes, ils n'avaient pas d'autre solution que de s'en aller et de suivre les chardons. Et ils couraient après les chardons, et les chardons les emmenaient vers la ville, et peut-être là, ils allaient s'en sortir, peut-être ils allaient trouver une vie possible. Et c'est un roman extraordinaire. C'est un roman très, très réaliste. Et en même temps, moi, c'est cette image, la première fois que j'ai lu, j'étais fascinée par cette image de gosse qui courait après des chardons pour continuer à vivre. Et puis bon, après, il y a tout un aspect, pour lire, j'ai relu souvent derrière, et j'ai compris qu'il y avait aussi toute l'histoire de la Roumanie, la répression, il y a des scènes terribles dans ce livre. Mais
c'était pas l'objet, pour vous, ce n'était pas l'objet
non,
initial.
Non, pour moi, ce n'était pas l'objet initial. C'était vraiment cette nature extraordinaire, et puis le fait, dans cette nature, il y a quelque chose qui se déclenche, et vous le suivez, et ça vous emmène plus loin. Lisez-le.
Oui, 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 vous avez bien réussi. Là, vous nous avez donné à tous envie de le lire. Oui, Jean-Luc ?
Non, je disais, il y a un livre, j'ai pensé là, un livre qui m'a certainement énormément influencé pour Prairie. C'était un livre de Brian Aldiss qui s'appelait Le Monde Vert.
Ah oui.
Dont toute la première partie était extraordinaire, qui se passait dans une espèce de jungle complètement fantastique, où l'homme, l'homme avait réduit, il était devenu pas si petit, il faisait pas 2 mm, mais il était devenu beaucoup plus petit. Et il vivait au milieu d'une espèce de cercle où la Terre s'était arrêtée de tourner. Donc il y avait un côté qui était plongé tout le temps dans l'obscurité, et l'autre, par contre, où c'était une espèce de jungle équatoriale terrible avec des plantes carnivores partout, et les hommes subsistaient au milieu de ces plantes carnivores. Et le traducteur français avait réussi justement à trouver des noms assez extraordinaires pour les plantes qui menaçaient les humains. Et il y avait des guêpes aussi, des guêpes volantes, ils appelaient ça des tigres volants. Et la terre avait été. Il y avait une espèce de plante qui s'était développée, qui faisait comme une espèce d'araignée, mais énorme, elles étaient grosses comme des ballons dirigeables, mais c'était des végétaux, et qui avaient tissé comme des soies, en fait, entre la Terre et la Lune, et avaient immobilisé la Lune, et en fait, elles allaient nidifier sur la Lune, et revenaient sur la Terre. Et donc, les humains se déplaçaient en rentrant, en fait, en quelque sorte, dans l'écorce de ces créatures. C'était assez extraordinaire quand le livre était absolument fantastique, et je pense qu'il m'a influencé. C'était dans une revue qui s'appelait Fiction à l'époque.
Oui, je me rappelle bien cette revue-là, moi, oui.
Voilà,
oui,
et
oui.
En fait, c'était ma grand-mère qui le lisait. Elle en avait un, je ne sais pas, elle ne lisait pas du tout de science-fiction, mais elle avait une de ses revues, elle avait commencé à lire cette histoire, il n'y avait que les 15 premières pages. Et donc, elle m'avait lu ces 15 premières pages, et je lui demandais à chaque fois que j'allais chez elle de me les relire. Donc, je ne connaissais jamais la suite du livre, mais ce n'est pas grave.
Ça suffisait. Mais au contraire, c'est peut-être justement ça qui vous a lancé sur
c'est
une
ça.
Voie.
C'est ça.
Puisque je ne sais pas la fin, moi, j'écrirai des
fois. Je vais l'inventer moi-même.
Écoutez, donc pour revenir, attendez, on a encore un tout petit peu de temps, pas beaucoup parce qu'on va passer aux questions, pour revenir à cette magie de la nature, cette magie et cette surnature, on en a beaucoup parlé. Si vous deviez là aujourd'hui choisir un objet, un objet, une plante, quelque chose, un lieu, comme ça, ex abrupto, ça serait lequel ?
Alors moi je sais.
Voilà. Il y en a au moins un qui sait.
Voilà, pour moi, il y a un village où j'ai passé mon enfance juste à côté de chez moi, habité une autre de mes grands-mères, et sur la place de ce village, il y a un arbre qui est un tilleul, qui est un sully, et qui est gigantesque. Le tronc doit être presque aussi large que la salle qui est là, et doit arriver de là à peu près jusqu'ici. Tellement gros qu'ils se séparent en deux, ils ont été obligés de faire un muret pour l'entourer, pour éviter que l'arbre ne se. Et par contre, à l'intérieur, on peut monter donc à l'intérieur de ce tronc. Et donc, quand on était enfant, c'était notre château fort, etc. Et les branches s'étendent, couvrent presque toute la place. Il est gigantesque, il est merveilleux, cet arbre-là. On le dirait tiré d'un livre de Tolkien, justement.
Oui, mais oui. Voilà.
Je vais en profiter pour citer un autre arbre. Dans le village de Murs, en Provence, dans le Vaucluse, il y a un petit village. Et en dessous, quand on prend une petite route qui descend, il y a un chêne absolument somptueux et au pied duquel j'ai énormément écrit Toby, dont des scènes que je ne peux pas relire ou entendre sans être à nouveau dans cet instant-là, précisément au pied de cet arbre. Et si vous y allez, surtout ne piétinez pas trop à son pied. Je vous autorise, hein, exceptionnellement, ça ne sort pas d'ici, donc à Murs. Et il y en a deux chênes, mais il y en a un qui est il y a un banc en dessous, vous avez le droit de vous asseoir. Et le mercredi, il y a un petit camion de pizza qui s'installe, mercredi soir. Donc vous pouvez même descendre à la pizza si vous gardez le carton avec vous. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a comme ça 3-4 arbres, comme chacun. On en a un, on a notre tilleul, qui est un arbre référent. Ça a été ma chance pour l'aventure de Toby. C'est ce qui fait que ça s'est traduit partout et que ça se balade, je crois vraiment. C'est que j'ai eu ce coup de bol de choisir cet arbre qui est un symbole. Quand je suis allé au Brésil, ou quand je suis là, j'étais à l'île Maurice, à l'île Rodrigue récemment, et chacun là aussi, ça parle à chacun, au fin fond du Vietnam, et ça c'est côté du point de vue des animaux. C'est vrai que les insectes, la mouche, l'aile de la mouche pour moi, et à un moment je la compare à un vitrail. Oui. Et c'est la beauté dans pourtant le plus vulgaire. Quand j'étais petit, on avait demandé d'apporter pour une fête à chacun un objet de la nature pour le poser sur la table. Et moi, j'avais apporté une mouche morte. Et on avait vu là quelque chose de...
Un instinct dévoyé.
Ah, mais voilà, quelque chose de... Alors que les autres apportaient un bouquet de pâquerettes. Et moi, j'avais l'impression d'apporter un trésor.
Une merveille.
Un trésor,
oui,
une merveille.
Oui.
Bon, je l'avais un peu gardé, serré dans mon poing.
Oh, mais les pâquerettes, de toute façon, il n'a pas dû s'en remettre non plus.
Alors, la pâquerette n'a pas duré, n'a pas dû aller jusqu'à Pâques.
Non.
Et toi,
ben oui.
Hélène ?
Eh bien, moi, c'est aussi des arbres. Mais alors, il y a plusieurs lieux. Il y a la forêt. Moi, je suis fascinée par la forêt. Mais alors, par la vraie forêt. La grande forêt avec des grands arbres, pas beaucoup de chemin et plein de choses à l'intérieur, des rivières, des lacs, des étangs, des maisons abandonnées, des champignons accessoirement, des buissons de mûres, des buissons de framboises, tout ça sur des montagnes de préférence, parce que l'intérêt c'est que quand on rentre dedans, ça monte et puis après ça descend et très vite on n'a absolument plus aucune idée de l'endroit où on se trouve. Voilà,
moi,
donc vaut mieux emporter une boussole. Et moi j'aime ça. Voilà, ces grandes forêts. Alors, je vous dis pas où elles se trouvent. Bon, elles se trouvent...
Ah, attendez, moi, j'ai lu quelque chose de très joli.
J'en ai chez moi.
Vous l'avez écrit. Les bois noirs.
Oui, c'est les bois noirs dans les monts du Forêt. Bon.
Mais l'ensemble de la formule est très, très belle.
Parce oui. Que et c'est les, plus exactement, c'est les monts du soir.
Les monts du soir. Non, mais
parce que les monts du Forêt, bon, c'est pas très connu. Hein, si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal. Il y a les monts du matin, il y a les monts du soir. Les bois noirs sont dans les monts du soir.
Le roman est déjà là.
Ah, mais il y a plein de romans. Déjà.
Non, mais je veux dire, avec des mots comme ça, avec des noms de lieux comme ça.
Oui. Et puis après, il y a les arbres de Grèce. Parce que les Grecs sont très forts avec les arbres. Dans les villages grecs, très souvent, dans les villages du Péloponnèse, il y a des platanes, des très vieux platanes, énormes. Je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir, plusieurs siècles en tout cas. Et très souvent, il y a une fontaine à côté et une terrasse avec un petit café juste de l'autre côté de la rue. Et le soir, les gens viennent là et ils passent la soirée là à discuter, à boire, à manger. Et c'est assez extraordinaire. Et il y a un platane comme ça en particulier qui se trouve dans un endroit en Grèce où personne ne va jamais. Ça s'appelle Figali. C'est en plein milieu du Péloponnèse. Et bon, maintenant, ils ont goudronné la route, mais avant, on n'y allait que par des pistes. Et ce platane est posé, Figali, c'est un village qui est perché sur une, dans la montagne, au-dessus d'un immense canyon, au fond duquel se trouve une entrée des enfers. Et donc, quand on est à Figali, ben, on domine ce canyon, et il y a ce platane qui est là, un petit peu à l'écart du village, et il y a une fontaine de l'époque de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire une fontaine qui a été construite là, qui est très grande, rectangulaire, tout ça, ça dépasse, ça fait une grande terrasse au bord de ce platane, et elle a dû être bâtie au 5e siècle avant Jésus-Christ, et elle est toujours là, intacte, et l'eau coule toujours.
Toujours.
Et autour de ce platane, il y a un petit banc comme ça, et qu'ils doivent déplacer de temps en temps, parce qu'au fur et à mesure que le platane grossit, forcément, il faut faire reculer le banc circulaire, et les gens viennent là, et continuent à arriver là avec leurs boissons et à s'installer et à parler.
Vous voyez, moins magique et moins enchanteur que ce que vous venez d'évoquer, mais il y a quand même un petit souvenir qui est proche. Pour nous, c'est la Corse, c'est Cargèse. Cargèse qui est un village qui a une église orthodoxe et une église catholique. Et entre les deux, il y a le gros arbre où les gens se réunissent. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait aussi complet ni aussi beau, il manque évidemment l'eau. Mais il y a quand même comme cette survivance de l'arbre qui se réunit, qui réunit. Et vous parliez de la Grèce, ça fait partie des grands pays, des arbres oracles. Le chêne de Dodone, bien sûr, mais il n'est pas le seul. Et là, on se retrouve aussi avec cette magie de la nature. Mais là, la magie vient de la nature, et la nature dit la magie au travers de ces arbres, comme le vol des oiseaux.
Exactement.
Comme le vol des oiseaux. Bon, mais écoutez, là, je crois qu'attendez, je vérifie, parce que je sais que l'ange de la montre va venir me taper sur l'épaule sans tarder, donc là, elle vient de se lever. Voilà, je suis repérée. Non, avant de passer à vos questions, je voulais quand même qu'on dise un petit mot d'une part de la, des autres livres de Mirapolis. Voilà, de Mirapolis. Si vous avez un instant pour présenter donc cette dystopie en fait de Mirapolis. Ce monde en deux parties, c'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est un thème d'anticipation, un thème de science-fiction, un thème de fantastique, et en même temps ça renvoie à quelque chose de très quotidien qu'on connaît tous dans le roman anglais qui est les upstairs downstairs, les gens de la famille noble et les domestiques. On n'est pas dans le même rapport, mais on se retrouve quand même dans ce monde un petit peu coupé en deux. Donc voilà, Mirapolis, pour ceux qui n'auraient pas... Hélène va nous en dire... Je sens qu'elle va nous en dire quelques mots.
Oui, ben Mirapolis, donc, c'est un roman d'anticipation, mais comme la plupart des romans d'anticipation, il parle aussi du monde dans lequel on vit. Et donc, ce monde, dans le premier volume, commence dans une cité qui est effectivement coupée en deux, avec une partie en haut, une partie en bas. Mais surtout, c'est une cité qui est complètement fermée. Et les gens qui habitent là pensent qu'il n'y a plus rien autour, que le monde extérieur, l'ailleurs, a disparu et il n'y a plus qu'eux à l'intérieur de cette cité. Et surtout, c'est une cité à l'intérieur de laquelle la lecture et l'écriture ont disparu. C'est pas qu'on les a interdits, c'est simplement qu'on s'est servi, finalement, on s'est dit finalement que ça ne servait pas à grand-chose. Apprendre à lire, c'est complexe, c'est long, c'est difficile. Apprendre à écrire aussi. Et en fait, on peut s'en passer.
On y vient.
Et donc, les livres et l'écriture ont disparu. Et plein de choses ont disparu avec, et notamment tout ce qui est lié à l'imaginaire. Et heureusement, à l'intérieur de cette cité, il y en a quand même quelques-uns qui se posent des questions. Et puis, il y a malgré tout des bibliothécaires qui ont survécu à tout ça. Et l'un d'eux va commencer à raconter des histoires. Il va raconter des histoires à un adolescent de la cité du bas. Et il va parler de choses que ce jeune ne connaît absolument pas parce que ça n'existe pas. Il va parler du ciel, il va parler des nuages, il va parler des arbres, il va parler des fleurs, et c'est autant de mots qui ont complètement disparu parce que tout ça n'existe pas dans la cité, et malgré tout ça va déclencher des images dans l'imaginaire de ce jeune, et à partir de là, bah, c'est fichu, ce jeune, il va falloir qu'il aille voir ailleurs comment c'est, et c'est ce qu'il va faire.
Donc une fois la magie,
il va suivre le chardon.
Oui, il va suivre le chardon. Exactement.
La magie, mais pour sortir de la ville, lui. Au lieu d'aller vers la magie de la nature, une fois encore.
Ah oui, là, c'est complètement...
Fonctionne, voilà.
Fonctionne, et puis, c'est aussi,
sur un autre mode, bien sûr,
toute une réflexion sur la lecture et l'écriture, et qu'est-ce que ça signifie vivre dans un environnement où le livre et tout ce qui va avec auraient disparu.
Et alors, on va revenir maintenant sur un instant sur, sur le simulacre. J'avoue que l'idée est extrêmement séduisante quand on est... tu l'as expliqué tout à l'heure, vous l'avez expliqué tout à l'heure, l'attraction, attends, je vais le lever plus haut pour que les... Voilà, parce que les derniers rangs ne doivent pas beaucoup voir. Vous le trouverez, vous pouvez le feuilleter au salon aussi. Pourquoi avoir voulu ressusciter ou retransformer ou refaire à D'Artagnan
D'abord pour m'amuser.
Oui. Comme on a pu en faire un chantant et dansant avec Jane Kelly, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Non, mais d'abord pour m'amuser, parce que je ne sais pas, l'idée m'est venue comme ça un jour. J'ai dit, bon, j'adorais Alexandre Dumas. Et je me suis dit, mais tiens, imaginons soudain que, je ne sais pas, sous le règne de Louis XIII, la Terre ait été attaquée par une espèce venue des étoiles qui aurait failli nous éradiquer. Et soudain, on est sauvé in extremis par une autre race qui va se nommer, on va les nommer nous les archanges, un peu éthérés, un peu étranges, qui va aider les monarques de la Terre à refaire leur royaume, à reconstruire leur royaume, et donc va nous vendre, pas nous donner, nous vendre une technologie bien moindre que la leur, mais quand même très en avance sur notre temps, par l'intermédiaire des jésuites qui vont s'enrichir de manière assez exponentielle.
Coup de patte.
Et donc,
un petit coup de patte.
Un petit coup de patte, voilà. Et donc, du coup, eh bien, dans ce 18e siècle alternatif, on va se retrouver avec des châteaux volants au-dessus de Paris, avec des libellugences. Donc
oui,
des diligences
les libellugences,
volantes,
voilà, c'est ça, oui.
Voilà, quand on a les moyens de se les offrir, bien sûr. Les gentilshommes vont se battre à coups de rapières énergétiques et de pistolets à lumière qui mettent une minute à se recharger, enfin. Et on est en train de construire au-dessus de la Terre donc la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi, donc détachée de la Terre et du peuple évidemment dont il veut s'isoler, où bientôt vont avoir lieu les cérémonies d'inauguration. Et donc on va rencontrer, faire la connaissance d'une jeune voleuse, une gasconne, qui s'est introduite sur un galion d'essieu en route vers la Versailles céleste et qui va essayer de voler un petit peu quelques richesses aux nobles. Et elle va voler un homme, donc Charles de Bass Castelmore, plus connu donc
selon le nom de D'Artagnan.
Voilà, ce qui était son véritable nom, hein, d'ailleurs, Charles de Bass Castelmore. Et donc, elle va essayer de lui dérober une bague et ça va entraîner toutes sortes d'aventures. Lui, il va mourir en lui permettant de s'enfuir en gardant cette bague. Et au moment donné où il va mourir, va se réveiller sur Terre le simulacre, enfin un jeune D'Artagnan de 20 ans qui est le simulacre, le clone du D'Artagnan original. Les gens riches de ce monde-là pouvant faire des clones, des doubles d'eux-mêmes pour les envoyer aux endroits où ils n'ont pas envie d'aller. Sauf qu'il faut qu'ils remettent régulièrement à jour la mémoire de leur simulacre pour donner le change. Et lui ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas en faire. On l'a contraint en lui disant un peu, tu es le protecteur du royaume, si tu meurs, il faut que quelqu'un puisse prendre ta suite et qui mieux que toi-même. Et donc il l'a fait, mais pendant 20 ans, il n'a pas mis la mémoire à jour de ce pauvre simulacre. Et donc notre jeune D'Artagnan va se réveiller avec la mémoire qu'il avait à la fin des Trois Mousquetaires. Donc il connaît rien de ce monde-là. Le lecteur va le découvrir à travers lui. Et en plus, tout le monde va se lancer à sa poursuite parce que l'original avait découvert un complot extraordinaire. Et en plus, il va devoir donc retrouver l'héroïne qui, elle, détient cette bague dans laquelle, une bague dans laquelle sont enfermées la mémoire du D'Artagnan original. Donc en fait, il va retrouver ses anciens compagnons, ses anciens ennemis, il va y avoir plein de choses.
On ne peut plus en savoir.
Je ne veux pas savoir la fin. Moi,
mais vraiment, c'était pour me faire plaisir. J'ai écrit, il y en a trois, et ils sont sortis comme ça. Ils sont sortis, mais alors, danger, et je riais tout seul.
Vous avez quand même de la chance que ça sorte comme ça, je trouve.
Alors là, c'est un des livres qui a été le plus facile que j'ai. Il y a des livres qui sont plus exigeants. Ce qui est amusant, c'est que des fois, on a l'impression... Je ne sais pas vous, quand j'écris, il y a des moments où j'ai l'impression que ça vient tout seul. Et on va dire, c'est vachement bien parce que c'est venu tout seul. Et des fois, au contraire, on peine terriblement et on se dit, ça va être affreux, illisible. Et en fait, les gens nous disent, oh, c'est pas ça, j'ai des merveilles, alors que nous, on était là.
J'aurais mieux fait de le supprimer, oui.
Voilà, c'est ça.
Écoutez, on a tout petit peu sorti de notre thème, mais j'avais envie qu'on parle de ce livre-là, donc, qui aurait pu passer d'ailleurs demain dans les Uchronies. Entre chronie et utopie d'ailleurs, mais bon, voilà, maintenant c'est à vous, on a 10 minutes à peu près pour que vous posiez vos questions, donc n'hésitez pas, vous avez vu que nos invités ne sont pas du tout redoutables, donc si vous avez quelque chose à leur demander, sinon on recommence.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la figure de l'industrialisation chez Tolkien, mais en fait, le personnage qui, dans Le Seigneur des Anneaux, illustre ça le plus, on le voit bien aussi effectivement dans le film de Peter Jackson, c'est Saruman, en fait. L'homme rusé, étymologiquement d'ailleurs. Donc, effectivement, alors dans le livre, on voit ça plus sur le travail, entre guillemets, qu'il fait à la fin sur la comté.
Oui.
Donc, je ne sais pas si après, si vous voulez repartir, peut-être c'était une remarque que je faisais, parce que c'est à ça que ça m'a fait penser, en fait, tout à l'heure, lors de la discussion.
Oui, c'est lui qui ravage la nature. C'est lui d'ailleurs qui va. C'est grâce à lui que les Indes vont basculer. D'ailleurs, les Indes qui étaient, en gros, nous sommes neutres et nous ne voulons rien savoir de ces pauvres petites créatures, que ce soit les hommes ou encore plus les hobbits. Alors là, franchement, ça, qui ne ressemble pas à grand-chose pour eux. Mais là, c'est bon. Dans le film, c'est un petit peu contourné dans la manière dont on réussit à amener les Indes sur le autour d'Isengard pour montrer à quel point tout est ravagé. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vraiment l'expression de la façon dont Tolkien voyait l'industrialisation, quoi. Elle dévorait le dessus de la terre, les arbres tombaient, elle ravageait l'intérieur de la terre et de façon apparemment irréversible. Or, on sait bien que Tolkien n'était pas, allez, on va dire gentiment qu'il était un peu conservateur à bien des points, sur bien des points de vue. C'est mais...
Jean-Luc. Non, je dis, oui, Saruman représente celui qui utilise la technologie, mais en fait, quelque part, on dit que l'anneau représente la technologie. Oui. En fait, il représente. La recherche de chacun, ce monde cartésien, scientifique, etc., la mort de toutes les croyances, la mort de... Voilà, pour, oui. Qui est remplacée par la technologie, les rouages...
Et Saruman ne travaille pas pour son compte personnel.
Non.
Saruman est lui-même un rouage.
Un rouage, voilà, de quelque chose de mal plus grand encore.
Bien sûr.
D'autres... Oui. Très fort, vous le rapprochez-vous.
Moi, je pense que c'est une nostalgie, hein, en effet. Il y a une part d'une nostalgie, d'un choc de la nature, mais c'est une nostalgie entretenue et renouvelée avec, enfin, je sais pas, moi, je pense tout d'un coup aux feuilles de chêne vert l'été, parce qu'elles ont beau ne jamais tomber, les feuilles de chêne vert, en fait, elles tombent tout le temps. Et donc, ça fait partie de ces feuilles mortes qui, pendant l'été, chauffe, et je me souviens de cette odeur précisément. Et quand j'arrive dans le bois de la chaise, encore un bois au fond de Noirmoutier, l'île de Noirmoutier, où je vais, où ma grand-mère avait une petite maison et où je continue à aller, et ben cette odeur là, elle remonte complètement de l'enfance. Enfin, donc je pense qu'il y a ces chocs là, mais il y a le plaisir de tenir cette mémoire vivante et y compris la nostalgie. Il y a toute une partie du livre de Perles, qui est mon dernier roman, qui s'appelle Le chagrin vivant. Et en fait, c'est que mon héros doit tenir son chagrin vivant pour garder l'envie de repartir dans le monde dont il est un exilé. Et il doit le tenir parce que sinon il va s'habituer à cette... Donc c'est un peu ça. C'est vrai que dans mon cas, et ça me désole presque, mais il y a quand même une part de nostalgie, je l'avoue rarement, mais dans... même si je suis tourné vers l'avenir et tout. Hein. Voilà.
Jean-Luc,
mais quand on parle de magie, par exemple, et de forêt, bon, moi j'habite dans une région qui est quand même assez riche en forêt, puisque j'habite dans le Cantal, donc en plein dans les monts d'Auvergne, donc c'est une région qui est quand même assez sauvage encore, on a cette chance, et d'avoir des vrais bois, c'est-à-dire des bois où, pas comme ceux qu'on voit dans les films d'Hollywood, où il y a des grandes chevauchées, vous savez, on voit les gens qui passent à cheval comme ça dans les bois, on a l'impression...
Alors et ils ne se prennent jamais une branche, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, alors qu'un vrai bois qui n'est pas entretenu, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un roncier, il y a des ronces jusqu'à 10 mètres de haut, on peut pas passer, quoi. Il y a le sanglier, il réussit à passer, mais nous non. Et quand on dit qu'il y a encore une magie dans ces bois-là, je m'en rends compte. Par exemple, j'écris aussi des histoires de loups-garous, un peu des histoires fantastiques. Si je vous raconte une histoire de loups-garous ici, ou par exemple dans un bâtiment moderne, vous allez me dire, oui, bon, mais maintenant on n'y croit plus, quoi, c'est le 20e siècle. Mais si je vous amène dans un bois et que la nuit, je vous raconte cette même histoire autour d'un feu de camp, entouré par le bois qui craque autour, tout à coup c'est marrant, les gens se retournent, commencent à regarder. Et puis tout à coup, on a beau savoir qu'on est au 20e siècle, que ça n'existe pas, les loups-garous, ou ce genre de choses. Mais tout à coup, les barrières semblent beaucoup plus fines. Vous savez, les gens, on a le petit frisson quand même, on regarde derrière, voilà.
Ça me rappelle une expérience que François Terrasson, qui était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et dont je recommande là encore la lecture, il est décédé il y a quelques années, il a écrit sur la peur de la nature, et où il explique que même quand on aime la nature, au bout du compte, on l'aime propre, un peu domestiqué, un peu épilé, quoi, voilà. Et lui, quand il avait des étudiants, donc c'était quand même un niveau doctorant, c'était pas de... Il les amenait, épreuve obligatoire, une nuit tout seul au milieu de la forêt et de noter tout ce qu'ils ressentaient, soit dans la nuit, soit le lendemain. Et c'était 3 sur 4 ressortaient complètement terrifiés. Ils avaient senti les puissances, la nature habitée. Les plus rationnels d'entre eux étaient persuadés, ce que tu disais, non pas, peut-être pas des loups-garous, mais qu'il se passait quelque chose. Et ils avaient vraiment une terreur tout à fait salutaire, je pense d'ailleurs, de la nature. Hélène, vous voulez dire quelque chose ?
Toujours pour répondre à la question, oui, il y a l'enfance, ça me paraît indiscutable. Moi, j'ai passé mes vacances depuis toute petite, aussi loin que mes souvenirs remontent. Mes parents louaient une maison au bord des fameux bois noirs dans les Monts du Soir, dans un petit hameau où il y avait quelques maisons. C'était bizarre ce hameau, les maisons se tournaient le dos. Elles étaient, voilà, les façades, elles se tournaient tout le dos. Il y avait une place. Autour de la place, il y avait des maisons et les maisons se tournaient le dos. Et au centre de la place, il y avait un tilleul. Un tilleul, pareil, qui devait avoir 200 ou 300 ans. Et il y avait toujours quelque chose sous ce tilleul. Quelqu'un qui venait s'asseoir pour lire, pour travailler. Il y avait une dame très âgée qui fabriquait des couronnes de perles pour le cimetière.
Oh, c'est c'était merveilleuse extraordinaire. Couronne, là, oui, superbe.
Ah oui, c'était beau, cette dame qui était sous ce tilleul en été, avec des perles de toutes les couleurs autour d'elle, et elle fabriquait des couronnes de perles. Et après, c'est pas de la nostalgie en ce qui me concerne, c'est vraiment un besoin. Moi, j'ai besoin de retourner dans ces bois, et c'est pareil, c'est des bois, c'est des vrais bois, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on peut se perdre, et c'est des bois avec des arbres immenses, et vous êtes là, il y a un tapis de mousse incroyable, enfin on croit que ça existe que dans les livres d'images, et en fait non, ça existe pour de vrai.
C'est des bois, on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de nous, justement.
Oui, c'est voilà, ça.
Ils n'ont pas besoin de nous.
Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour les regarder, pour les admirer. Ils sont là, c'est une évidence. Quoi.
Et puis, tout d'un coup, il y a un ruisseau, il y a une source qui arrive, et ça devient un ruisseau qui devient une rivière, qui se faufile dans ces bois. Et puis, il y a ces arbres immenses, et quand vous levez la tête, ben, on voit quand même un petit bout de ciel. Mais en même temps, on est au fond du bois. Et ça, c'est extraordinaire.
Je pense que c'est le meilleur médicaments pour notre civilisation, c'est-à-dire oui. Ces bois-là. C'est-à-dire moi, quand j'ai enseigné quelques années en collège à La Courneuve, et je n'avais qu'un rêve, qu'un projet pédagogique d'ampleur, c'était élitreuiller mes élèves en forêt, quelque part, et les laisser avec une petite puce GPS pour leur donner un espoir. Mais c'était la seule éducatrice pour moi, la seule force éducatrice qui pouvait faire quelque chose. Enfin, je ne l'ai jamais complètement réalisé, ce projet. Mais
T'en as perdu combien comme ça
Chut. Non, je viens d'être rayé de l'éducation nationale, mais ce n'est pas pour ça. C'est parce que j'ai été trop longtemps en disponibilité. Voilà. Mais je suis convaincu de ça. Vraiment, le parachutage des élèves en forêt et une forme de survie pendant 3 jours, ça calme. Enfin, ça...
Eh bien, écoutez, on va vous laisser au calme. Alors, en vous remerciant vraiment tous de toute la richesse, de tout ce que vous nous avez offert là. Vraiment, c'était varié, multiple et drôle et profond. Je vous remercie vraiment beaucoup.
Merci.
Et je crois que...
Merci.
Merci beaucoup.